plaisir de choses que vous avez tous. Et que Luc a très bien raconté dans son livre, enfin ce désir en tout cas de raconter ce village et son histoire. D'ailleurs, je me suis demandé si tout à l'heure vous descendiez pas de Chaudin encore, quand je vous ai vu arriver en t-shirt alors que j'avais mis la chemise et tout. Ce désir, il remonte à quelle période de votre vie? Il y a eu un événement, ça vient d'où?
Alors ça vient de l'enfance, clairement, ça vient de ce privilège inouï qu'on peut avoir quand on est un petit garçon ou une petite fille qui grandit en montagne et qui peut aller se promener avec ses parents. Et donc j'y suis allé plein de fois et en étant marqué par les lieux, par quelque chose qui semblait planer sans que je sache à ce moment-là ce que ça pouvait représenter. J'avais été marqué par les explications qu'on m'a données. Je voyais les ruines qui étaient à l'époque... années 80, je pense essentiellement. Les ruines étaient encore un peu plus visibles qu'aujourd'hui, beaucoup plus visibles même qu'aujourd'hui. Et on me racontait que les habitants étaient partis en Amérique. Et c'est vrai que moi, le mot Amérique, ça me fascinait évidemment. Et je me disais, mais comment ils ont fait? Pourquoi ils sont partis? Et donc, était resté en moi sans doute cette curiosité sur l'histoire de ce village que j'ai gardé. Bon, évidemment, pendant les études et au début de ma vie professionnelle, c'était pas du tout mon sujet. Et puis j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à voir si des travaux universitaires avaient existé. J'ai trouvé des livres écrits par des historiens locaux qui sont souvent des livres très intéressants. Et donc j'ai commencé à chercher comme ça des éléments. Je suis tombé sur la une du journal L'Illustration en 1895 qui faisait sa une sur Chaudin. Et là je me suis dit, bon, en fait il n'y a pas que moi cette histoire. Si ça a fait la une de ce magazine, qui était un magazine extrêmement important, hebdomadaire à l'époque, c'est que cette histoire, déjà à l'époque, avait une signification au-delà de l'intérêt que peut ressentir un petit garçon qui se promène dans des forêts et dans des vallées. Et donc ça m'a encouragé. Et là, j'ai commencé vraiment un travail de recherche. Mes premières recherches approfondies, c'est 2014, donc c'était il y a vraiment très longtemps, en venant notamment aux archives départementales à Gap pour commencer à fouiller toutes les archives possibles. Et puis après, voilà, la machine était lancée jusqu'à l'écriture finale qui s'est terminée en tout début 2020.
Donc l'Amérique vous a fait rêver, vous êtes parti à la conquête du monde et pour au final revenir à Chaudin à deux pas de Gap. Vous n'avez pas lâché.
Mais j'aime bien cette idée qu'on puisse partir loin et en même temps avoir un lien avec un lieu en particulier. Et par ailleurs, pour moi, notamment quand je travaillais, parce qu'on m'a souvent posé la question de comment tu faisais pour être à la fois directeur de la rédaction et écrire ce livre, en fait, pour moi, c'était une part d'évasion. Et quand j'écrivais, quand je pensais, par exemple, c'est un autre extrait du livre, à la neige et au silence de la neige qui tombe, quand j'essayais de raconter ça et que j'ai passé des heures à écrire parfois quelques dizaines de mots, quelques paragraphes, en fait j'étais ailleurs, voilà, je voyageais, j'étais là-haut et je pense que j'ai une capacité à rêver dans ces moments-là qui est très grande et donc ça m'offrait du rêve. Donc pour une part c'était très égoïste. Après un livre il fait sa vie et c'est pour ça que je suis très heureux d'être là, parce que ça veut dire que le livre il fait sa vie et c'est pour moi une très belle récompense. Mais voilà, j'aimais l'idée d'aller faire remonter ces souvenirs-là et ensuite, on en reparlera sans doute, de faire entendre les murmures des habitants de Chaudin, de faire entendre les murmures de tous ceux qui sont passés là-haut, qui ont vécu, qui ont dû partir, qui ont choisi de partir. Et il y avait pour moi une émotion très grande à l'idée que, quelque part, une trace resterait par l'existence d'un livre, en plus des livres qui existaient déjà.
Alors, dans le premier chapitre, après le prologue, vous nous faites visiter le cimetière en évoquant la tombe de Félicie, une enfant morte à l'âge de 17 ans. Commencez par une visite dans un cimetière. Évoquez la mort d'une enfant. Avec tout ce que cela peut évoquer, que vous essayez de dire, la toilette funéraire, pourquoi elle est morte, de quoi elle est morte, son agonie, les prières. Il fallait bien remercier le Seigneur, vous dites à un moment. Et vous avez écrit, dans le même chapitre, je crois, « Tous les foyers sentent la mort de leurs enfants. » Tout de suite, vous nous plongez dans la tragédie, dès les premiers mots. Et puis, vous ajoutez une longue liste d'enfants morts. Une liste que vous avez dû prendre dans une archive, je suppose. Hein ? Des enfants morts à leur naissance ou pendant les premières années. C'est un document administratif, donc, qui doit être... normalement, qui est tel quel, sec, un peu rugueux. Eh bien non, vous arrivez en vous arrivez à en tirer une espèce d'émotion. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit qu'en lisant cette liste, ils avaient été tellement émus, justement. Et à la fin du premier chapitre, on a un petit peu du mal à continuer.
J'ai commencé dans le cimetière parce qu'il reste une tombe. À Chaudun, il reste un morceau de tombe, pour être plus précis, avec une indication d'une histoire. Et c'est vrai que Félicie Marin est une jeune fille qui est morte en 1877 à l'âge de 17 ans à Chaudun. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et c'est vrai que moi j'ai ressenti une émotion en étant devant cette tombe, en posant la question du destin de cette jeune fille, qu'est-ce qui faisait qu'on mourait à 17 ans à Chaudun. C'était malheureusement très fréquent en réalité. Et donc j'ai voulu comprendre, et je me suis dit que la question de la mort devait être une des questions clés de l'énigme sur laquelle je travaillais, c'est pourquoi les habitants sont partis. Les habitants sont partis parce que les conditions de vie étaient extraordinairement difficiles. Elles étaient difficiles partout, dans toutes les Hautes-Alpes, dans toutes les montagnes. Elles étaient un peu plus encore dans cette vallée parce que la nature était plus difficile et parce que l'homme et la femme avaient exploité, parce qu'ils n'avaient pas le choix, leur terre, conduisant à une forme de catastrophe climatique, écologique en tout cas. Donc, c'est vrai que la question de la mort était pour moi une question qui était inévitable. Et voilà, je trouvais que, par ailleurs, j'avais envie de repartir de cette émotion très grande ressentie en étant devant la tombe de cette jeune fille, devant son destin, et d'avoir envie de comprendre, de raconter sa vie, donc de trouver de trouver ses deux parents, de trouver son demi-frère, de trouver l'épouse de son frère, leur enfant qui meurt juste après, c'est horrible, de trouver les curés, les instituteurs, tous ceux qui avaient pu croiser cette jeune fille en me disant qu'elle me permettrait de raconter de façon sensible la vie d'un village qui sinon se résume à des documents administratifs, effectivement. J'ai beaucoup hésité sur la liste des enfants morts, pour ne rien vous cacher, parce que c'est un objet, c'est peut-être là que je suis à la limite entre journaliste et écrivain, mais c'est vrai que moi je trouvais que dans la liste il y avait un effet de assommant volontaire, un effet de répétition, un effet d'émotion.
Mais qu'on ne ressent pas.
Et qui pour moi était très important, cette phrase je l'emploie au moment où il y a la liste, c'est justement les murmures de ces enfants que je, à qui quelque part, ne serait-ce qu'en écrivant leur nom, leur prénom, leur âge, leur date de naissance et leur date de mort, ça laissait une trace. Voilà. J'avais cette émotion très simple, sans que je puisse savoir si les lecteurs l'apprécieraient. Et il me semblait indispensable au final de l'écrire.
Mais, et puis vous allez encore ajouter un petit peu plus de tragique, je dirais. Ces enfants venus d'ailleurs, qui étaient-ils quel était leur sort quand ils venaient à Chaudun? Pourquoi venaient-ils à Chaudun? Et quel était leur sort? Comment étaient-ils reçus?
C'est une découverte en travaillant dans les listes d'état civil, puisque cette liste d'enfants morts, elle n'existe pas. C'est pour moi d'avoir travaillé sur des décennies d'état civil, donc les actes de naissance, de décès, de mariage de cette petite commune, et où j'avais été marqué par la répétition du nombre d'enfants morts. En ayant autant travaillé sur Chaudun, j'avais l'impression de connaître toutes les familles. Je pouvais presque à un moment donné vous citer les arbres généalogiques des différentes familles. Et je voyais des noms apparaître que je ne connaissais pas. En disant, mais d'où vient cet enfant? Il y a subitement un enfant qui meurt, qui est tout jeune. Je ne connais pas ce nom. Et j'en ai vu un, deux, trois, quatre, cinq, un peu plus même. Et du coup, je suis allé chercher leur propre état civil. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était des enfants placés en nourrice, comme ça se faisait à l'époque. Et comme ça se faisait dans quelque chose qui m'a tout de suite intéressé, parce que ça raconte la morale d'une époque. Et à l'époque, c'est quand même très intéressant, et c'est très intéressant de se dire ça aussi dans un moment où il y a beaucoup de nostalgie sur ce que pouvait être la société française. À l'époque, avoir un enfant en dehors du mariage, c'était un sacrilège, c'était condamnable, c'était quelque chose qui vous renvoyait au banc de la société. En revanche, laisser mourir cet enfant dans une famille qui n'avait pas les moyens de s'en occuper parce que cet enfant avait été placé, la société le vivait plutôt pas mal en réalité. C'était pas du tout un scandale. Or, en fait, l'administration savait très bien, et c'est des choses que j'ai retrouvées en faisant cette enquête, c'est vrai dans les Hautes-Alpes, c'est vrai ailleurs, qu'en fait, les enfants, ils mouraient très largement. Et donc, en fait, on se débarrassait, je dis de façon très crue, hein, pardonnez-moi, mais c'est parce que je crois que c'est la réalité, on se débarrassait de ces enfants dont on ne voulait pas parce que soit les femmes étaient seules, soit elles n'avaient pas les ressources pour les élever. Les pères, on s'en fichait un peu, c'était quand l'enfant naissait, ça n'était que la responsabilité des femmes. Alors, ça dit aussi ce qu'était l'époque. Et donc je trouvais que c'était intéressant de raconter ce rapport à la morale à travers l'exemple d'un petit village banal finalement. Oui, il y avait une morale qui était très forte, qui s'appliquait d'abord sur les femmes, il faut bien le dire, mais qui faisait qu'on ne condamnait pas une société où les enfants mouraient en masse lorsqu'ils étaient placés. Et donc raconter ça, même si ça rajoutait du tragique, je trouvais que c'était aussi un indice de la dureté de la vie dans ce village. Parce que si les nourrices, qui étaient souvent des femmes qui avaient perdu leur propre enfant, hein, c'est souvent ça l'histoire, et donc qui pouvaient allaiter, prenaient d'autres enfants, c'est parce qu'elles étaient dans l'indigence la plus grande. Et donc c'était voilà, encore un élément qui disait la misère de ce village.
Les femmes, justement, vous venez d'en parler, vous revenez plusieurs fois sur la situation tragique des femmes. Colette, tu veux nous lire un petit passage ?
Je prends peut-être un micro. Sophie vivait probablement avec sa sœur dans la maison de Joseph quand celle-ci était morte. Vous entendez ou pas ? Sophie vivait probablement avec sa sœur dans la maison de Joseph quand celle-ci est morte. Pouvait-elle ne pas céder à cet homme et à son désir ? Quelle était sa liberté ? Dans l'intimité des familles, dans cette époque où le sexe s'accomplissait sans nudité, les mots d'amour et de séduction existaient-ils ? Où l'a-t-il prise ? Un soir ou une nuit ? Après sa journée de travail dans les champs ? Parce qu'il en avait envie ? Parce qu'il en avait besoin, et qu'elle était là, et qu'elle ne pouvait rien dire, rien opposer, et que c'était son destin de femme orpheline, de ne pouvoir dire non.
Le destin des femmes de ne pouvoir dire non. Parlez-nous un petit peu de ce que vous appelez les victimes de la hiérarchie sociale, sexuelle et familiale.
C'est très frappant ton travail sur cette période, aussi parce que ça montre que si la société a largement progressé, elle n'a vraiment pas fini son chemin sur la question de l'égalité homme-femme. Ce qui est frappant, c'est que l'inégalité est écrite, là où aujourd'hui il y a une forme d'hypocrisie qui fait que souvent l'égalité est prétendue mais n'est pas réalisée. À l'époque, c'est écrit. Quand je fouille dans le registre du conseil municipal, par exemple, de Chaudun, les tarifs des journées de travail pour la commune sont écrits. Et donc, de mémoire, la journée d'un homme, ça doit être 3 francs. La journée d'un enfant, c'est 1,50 franc. Et la journée d'une femme, c'est 1,50 franc. Voilà. Et donc, c'est écrit. C'est-à-dire que la valeur de la journée de travail d'un homme et d'une femme est divisée par 2 quand il s'agit d'une femme. Donc ça, c'est vrai que ça m'a d'emblée impressionné. Alors c'est peut-être une société qui à l'époque est plus crue, plus directe et qui ne cache pas les choses, là où aujourd'hui tout ça ne peut pas être écrit mais peut être largement pratiqué. Donc voilà, ça dit aussi le rapport aux mots à l'époque, qui sont des mots qui sont souvent beaucoup plus directs que les mots qu'on peut utiliser dans la société actuelle. Je l'ai vu aussi sur les mariages. C'est vrai que j'ai passé un temps infini dans l'état civil. À un moment donné, j'ai cru que j'allais devenir fou à force de regarder l'état civil de Chauvin, parce que je cherchais tous les liens possibles entre les familles pour essayer de comprendre qui était qui. Bon, j'ai pas trouvé de choses absolument, sauf peut-être cette histoire qui est une belle histoire. Et en cherchant, c'est vrai que je voyais que ce qu'on sait quand on regarde les travaux des historiens, une femme ne pouvait pas rester seule. Et un homme célibataire ne pouvait pas rester seul non plus, pour des raisons souvent économiques, morales aussi en passant, parce qu'un homme ou une femme seule, c'est une forme de danger pour l'équilibre général d'une société, en tout cas à l'époque. Et donc, de fait, des hommes et des femmes seuls, on allait les marier, les remarier dans une forme d'équilibre, enfin de respect de leur volonté que je ne peux évidemment pas documenter, je ne sais pas comment ça se passait. Ça allait parfois un peu plus loin, c'est l'exemple qui a été lu tout à l'heure d'une jeune sœur dont la grande sœur décède au moment de donner naissance et qui 7 mois ou 8 mois plus tard, donne naissance elle-même à l'enfant du mari de sa sœur. Je ne sais pas si c'est très clair dans l'explication, parce que c'est un peu compliqué. Ce qui, à l'époque, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a intrigué, puisque dans l'état civil, je me suis retrouvé avec une citation de Napoléon III. Ils n'avaient que l'affaire Napoléon III à Chaudun. Et en fait, il fallait une dérogation de l'empereur à l'époque pour permettre le mariage entre un homme et sa belle-sœur. Et en fait, c'était assez banal. C'est-à-dire que le divorce n'existait pas. Le divorce n'existait pas non plus parce qu'en fait, les hommes et les femmes mouraient relativement vite et que donc le divorce, c'était pas indispensable. Mais en fait, il y avait des remariages très fréquemment. Et quand j'ai passé beaucoup de temps dans les actes notariés, puisque j'ai aussi eu cette folie d'aller me plonger dans les actes notariés qui racontent très bien l'histoire des familles, on voit l'extraordinaire complexité des alliances familiales et du lien des recompositions et des enjeux économiques qui vont avec, puisque en fait quand un foyer se construit à l'époque, c'est aussi potentiellement des terres qui vont s'organiser différemment.
Alors venons-en à la vente du village. Justement, vendre le village, comment une telle décision a-t-elle pu être prise? Des explications sont données dans la lettre, justement, la lettre que les villageois ont adressée au ministre de la République. On va en lire une partie parce que c'est une lettre très belle et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ça vous donnera envie d'aller la lire. Monsieur le ministre, nous, sous-signés, habitants de la commune de Chaudun, avons l'honneur de vous adresser respectivement la requête suivante.
Il n'est douteux pour personne qu'un des tristes privilèges conférés par la nature au département des Hautes-Alpes est celui de compter parmi les plus pauvres et parmi ceux où les conditions de l'existence sont les plus rudes et les plus précaires. Les montagnards alpins, sans cesse aux prises avec les difficultés les plus lourdes et les plus imprévues, disputent péniblement à un sol rebelle et à un ciel peu clément les chétives ressources qui suffiront à peine à nourrir leur famille.
Pour ces déshérités de la nature, le combat de la vie est terrible, continuel et souvent fatal. La commune de Chaudun, et qui ne compte que 112 habitants, est une des plus malheureuses parmi les localités de ce malheureux pays.
Bâti à une altitude moyenne de 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer, notre village est enfoui sous les neiges pendant 8 mois de l'année, privé de toute communication avec les villages environnants, enfoncé dans les replis abrupts de rochers dénudés, Chaudun est éloigné d'environ 19 km de son centre d'approvisionnement.
L'élévation des montagnes, l'extrême déclivité de leurs pentes, le mauvais état des sentiers rendent le parcours du pays excessivement difficile et périlleux. Le mulet est la seule bête que nous puissions employer avec sécurité pour le transport à dos de nos approvisionnements, et encore devons-nous faire ces provisions durant la belle saison d'été, car il nous serait impossible d'y pourvoir pendant l'hiver.
Nous n'avons pas à compter sur le revenu de nos forêts par suite de manque de voies de transport. Le terrain est stérile, et c'est au prix des plus grandes fatigues que nous en retirons un peu de blé. D'ailleurs, par sa position géographique, le village se trouve protégé par aucun abri naturel.
Les intempéries fréquentes ici nous font souffrir plus que personne, et il est rare que nos maigres récoltes, qui d'ordinaire existent à l'état d'espérance, puissent résister aux âpres rigueurs de notre climat. Les terrains incultes s'étendent de jour en jour devant la violence des éléments, et malgré nos persévérances et nos efforts, nous nous voyons obligés de reculer et nous sentons qu'il est impossible de continuer la lutte.
Cette année particulièrement, monsieur le ministre, nous avons à souffrir de la rigueur de l'hiver qui, nous le répétons, dure à Chaudun au moins 8 mois sur 12. Les longues et fortes pluies qui n'ont cessé de tomber ont creusé des ravins, entraîné le sol et avec lui une partie des futures récoltes. Nous vivons presque au jour le jour, monsieur le ministre. C'est dire que notre pauvreté ne peut parer aux éventualités et qu'aujourd'hui, la plus triste misère règne dans nos maisons.
Vaincus par l'indigence, nous avons l'honneur de proposer au gouvernement l'achat du territoire de notre commune. une lettre. Vous saviez qu'elle existait, cette lettre, ou si vous l'avez trouvée, vous saviez qu'elle existait?
J'ai, en faisant des recherches, j'ai su assez vite qu'elle existait, puisqu'elle était citée dans d'autres livres. Je suis tombé assez vite sur une copie, très belle. J'ai mis du temps à trouver l'original, ce que je pense être l'original. Et j'ai d'emblée été complètement saisi par l'écriture de ce texte. C'est écrit avec... je trouve que c'est très triste, mais très beau.
Vous le dites, deux secondes, pardon. Cet appel est si beau, écrit d'une langue qui châtie, une langue qui claque, qu'il pourrait être déclamé comme au théâtre, en respectant les blancs, les silences, en jouant avec la force des mots de ces mots-là.
C'est vrai que c'est un texte qu'on a envie d'entendre à l'oral. Et quand j'écrivais, j'avais envie de dire à mes lecteurs, en fait, prenez un moment et lisez-le à haute voix, puisqu'en fait, ce texte, il a une sonorité, il a une force dans les mots, il a une forme de violence aussi, parce que quand on écoute ce que disent les habitants, c'est terrible. Ils sont en train de raconter qu'ils sont en train de mourir de faim, quand même, de désespoir, et que c'est pas la première année, c'est l'effet de répétition. Et donc c'est vrai que là j'ai eu aucun doute. Je savais que cette lettre, il fallait évidemment que je la reproduise en intégralité. Il fallait aussi que j'essaye de raconter presque la calligraphie. C'est un texte qui est écrit avec plein de déliés. Voilà, il y a assez de langue, c'est magnifique. Enfin, il y a une forme de beauté d'un texte dont on connaît le destin en plus. C'est-à-dire que ce texte, à la fin, il est écrit en... Il est envoyé en octobre 1888 et le village est effectivement vendu en août 1895. Donc il y a sept années pendant lesquelles vraiment le désespoir dans ce village s'est encore monté de plusieurs crans. Et donc voilà, je trouvais que ce texte était d'une beauté assez incroyable.
On a fait ce qu'on a pu pour le lire.
Très bien.
Est-ce que sans ce texte, le récit ne tient pas? Est-ce que ça a été l'élément déclencheur pour passer vraiment à l'écriture?
Ça a été un des éléments importants. Déclencheur, non. Mais c'est vrai qu'en le lisant, ça a éveillé en moi une curiosité immense. Non résolue, mais moi j'aime bien l'idée de faire une enquête comme celle-là et de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Ça fait aussi peut-être la différence entre l'écrivain et le journaliste. C'est que là où le journaliste aurait été absolument frustré, l'écrivain ou celui qui peut travailler une forme de littérature, la part de mystère, elle n'est pas si gênante que ça. Et donc j'ai rêvé de trouver le signataire de...
Et vous ne l'avez pas trouvé?
Je ne sais pas.
Ah.
J'ai rêvé parce que je me suis posé 1000 questions sur ce texte. Je me suis dit, mais est-ce que je vais trouver des brouillons, par exemple? J'ai trouvé plein de brouillons de notes, de lettres. Je me suis dit, je vais trouver un brouillon. Et ce brouillon, ça va être un indice. J'ai épluché la liste des signataires en regardant évidemment le premier signataire. J'ai imaginé que ça pourrait être le curé, puisque le curé est un personnage qui joue de façon générale à l'époque un rôle important dans tous les villages, mais celui-ci, le curé Robert, avait, semble-t-il, c'est la transmission orale qui le raconte, un rôle particulièrement important. J'ai cherché absolument partout, et à la fin,
je ne sais pas. Ça, c'est une réponse de Champsaurin.
Réponse de Champsaurin.
Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais simplement l'écho de plusieurs personnes, dont M. Pierre Faure, qui a beaucoup travaillé sur les archives de Chaudin, comme vous. Alors, il m'a bien mis en garde, il ne veut surtout pas polémiquer, il ne s'agit pas de remettre en cause votre travail. Il avait peur de ce que j'allais dire, donc je vais essayer de ne pas le trahir en choisissant mes mots, mais... En gros, ce qu'il me disait, c'est que en omettant de mentionner d'autres villages vendus à l'État dans les Hautes-Alpes, alors là, c'est pareil, je cite une liste qu'il m'a donnée, je ne les connaissais pas, Châtillon-le-Désert, Saint-Cyris, Clauzonne, Agnelle-en-Beauchesne, Paumet. Donc, en ne les citant pas, sans peut-être souligner le fait que cette misère matérielle et intellectuelle à Chaudin et le lot commun, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais peut-être pas plus que ça dans le livre, le lot commun de tout ce pays de montagne, de toutes les Hautes-Alpes et même une bonne partie de la France, est-ce qu'on n'a pas un peu stigmatisé Chaudin et ses habitants?
D'abord, toute critique est positive. Moi, j'aime bien le fait d'avoir des critiques, donc je trouve ça très bien que s'expriment des avis différents, parce qu'après, c'est un travail de recherche sur un lieu avec une part de subjectivité, donc j'assume parfaitement cette part de subjectivité. Effectivement, il y a plein d'autres villages qui ont été concernés. Mon choix était de raconter le destin d'un village, voilà, d'essayer de raconter le huis clos qui fait que une quarantaine de familles, une centaine d'habitants au total, de façon unanime, décident de tout abandonner et de partir, dont certains en Amérique. Je crois que c'était un des premiers villages, si ce n'est le premier village. Donc tout ça réuni, pour moi, justifiait le fait de me concentrer sur Chaudun. Et pour être honnête, si j'avais dû faire le même travail d'enquête sur d'autres villages, je pense que je serais toujours en train de faire des recherches et d'essayer de trouver la part de mystère. Donc, oui, là où la critique est tout à fait légitime, c'est un exemple d'un village parmi beaucoup d'autres qui ont été concernés par une forme de déprise rurale, d'incapacité à survivre. J'évoque par exemple longuement dans le livre le fait, et je pense que vous êtes nombreux à le savoir, que des milliers d'habitants du Champ de Sort en particulier sont partis en Amérique entre 1850 et le début du XXe siècle. Ils sont partis pour des raisons très similaires. Une forme de surpopulation, une crise économique majeure avec des fluctuations du prix des matières premières, notamment, qui faisait que la vie devenait impossible et que les jeunes hommes et les jeunes femmes préféraient partir en Amérique plutôt que de rester dans les Alpes et en France de façon générale. Donc, ce qui est une façon de raconter que ce problème était bien plus large. Mais c'est vrai que des villages de ce type-là abandonnés avec quelque part une unité de lieu. Là aussi, c'est subjectif. C'est vrai que quand moi j'allais à Chaudun, quand je vais à Chaudun, je ressens quelque chose de particulier. Voilà, je ne sais pas dire pourquoi. Il y a une forme d'émotion liée à l'existence de ce petit village, de ce qui reste au fond de cette vallée, qui pour moi justifiait le fait de parler de ce village-là. Effectivement, j'aurais pu en choisir un autre, mais est-ce que j'aurais ressenti la même chose? Je ne sais pas.
Donc il n'est pas unique ce village. Et est-ce que c'est votre émotion à vous qui le rend unique, ou est-ce qu'il y a finalement dans cette histoire des éléments qu'on ne retrouve pas ailleurs?
Alors pour moi, il est unique, mais c'est, encore une fois, je vous dis, cette émotion particulière. Je pense qu'il y a plein de points communs avec plein d'autres villages. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur les nourrices, par exemple, ça existait ailleurs. Une partie de ma famille vient de Champollion, qui est une autre vallée. Il y avait des nourrices à l'époque aussi. En faisant des travaux sur les archives, j'ai trouvé des choses à peu près comparables. Le rôle des eaux et forêts, dont on n'a pas parlé encore, c'est un acteur extrêmement important dont l'objectif était de récupérer des terres avec l'idée que les paysans avaient causé des désastres assez importants. Les eaux et forêts étaient présentes dans l'espace du Buëch, mais bien au-delà dans les Hauts-Alpes. Donc il y a plein d'éléments qui sont des éléments partagés à l'échelle d'un territoire plus large, mais qui me paraissaient particulièrement saillants dans l'histoire de la courte vie de ce village, parce que par ailleurs ce village a une particularité qui dit peut-être aussi l'impossibilité de vivre là-haut durablement. C'est un village qui est assez récent, les premières traces d'habitation sont pas si vieilles à Chaudun, contrairement à d'autres communes.
Alors donc vous êtes beaucoup documenté pour écrire ce livre, votre enquête est fouillée, on a des pages entières où on apprend les choses telles quelles, je dirais, telles que vous les avez trouvées sans doute dans les archives. Vous énumérez à la fin tous les lieux, tous les organismes dont vous avez consulté les archives. Mais quand l'information vous manque, vous imaginez ce qui a pu se passer. On entre à ce moment-là dans la fiction et vous faites là un travail, je dirais un travail d'écrivain. Par quel procédé vous arrivez justement à redonner une vie aux gens? Avant que vous répondiez, on va lire un passage. Annette, où elle est Annette?
Gardez la question en mémoire.
Félicie Marin.
Martin. Bon. Martin.
Marin.
Tiens, donne le micro, t'es fini.
Félicie Marin, morte le 30 avril 1877, à l'âge de 17 ans. 17 ans. Félicie Marin, j'ignore quels étaient ses espoirs, ses peurs. J'ignore à quoi ressemblait son visage, si elle avait gardé ses cheveux longs, si elle les dissimulait sous un foulard, si l'hiver et le soleil des champs avaient déjà brûlé sa peau, si ses mains avaient déjà pris la corne des montagnards, si elle avait pu être heureuse, à quoi ressemblait son sourire, son rire, sa voix? De quoi étaient faits ses rêves et ses cauchemars? Dansait-elle? Chantait-elle? A-t-elle eu le temps d'être une demoiselle aux petits airs charmants, comme l'écrivait Rimbaud, presque au même moment, dans une autre France si différente?
Merci, Odette. Merci.
Alors,
justement, la question est, par quel procédé vous arrivez à donner vie aux gens, en dehors, je dirais, des archives, en dehors de l'information que vous aviez?
Alors, de plusieurs façons différentes. C'est vrai que là je laissais, au fond, s'exprimer mon imagination et mon questionnement. Alors, et qui était, de fait, oui, j'ai pas trouvé de photo, donc je n'ai pas de représentation. Et quelque part, je rêvais de trouver une photo, mais ne pas l'avoir trouvée, peut-être mieux en réalité. C'est tout, voilà, la question de l'équilibre de l'écriture d'un livre. Et donc là, je laisse filer mes questions, parce qu'effectivement, moi, Félicie Marin, je ne vois plus qu'un bout de tombe et je me pose toutes ces questions. Et donc, à un moment donné, le plus simple, finalement, c'est de laisser poser ces questions-là, qui sont des questions que je me pose moi en tant qu'auteur et que le lecteur se posera peut-être au moment de la lecture. Ça, c'est un premier procédé. Il y a un deuxième procédé d'écriture, et j'emploie les mots procédé parce que oui, moi, je n'ai pas du tout une écriture spontanée. J'ai besoin d'énormément travailler mes textes, retravailler, et je les ai bougés dans tous les sens. Enfin voilà, j'ai une matière qui est très vivante pour moi, l'usage des mots et l'écriture. Il y a des moments où j'ai vraiment imaginé des scènes, par exemple, quand quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire, à chaque fois, ce sont des choses qui ont eu lieu. Et simplement, je me donne la liberté de les décrire, même si j'ai été évidemment pas témoin et que j'ai pas de témoin direct. Mais par exemple, le jour où les hommes se réunissent, puisque c'était quasiment que les hommes qui avaient le droit de signer cette fameuse lettre dont on vient de parler, j'imagine qu'ils se réunissent dans l'église ou dans la petite salle de la mairie. Et là, pour le coup, je laisse passer mon imagination, je laisse parler mon imagination, puisque je ferme les yeux et j'imagine les bruits, j'imagine les odeurs, j'imagine les raclements des vents, voilà tout ce qui peut faire la vie d'un groupe comme ça, et une communauté qui va prendre une décision importante. J'imagine celui, comme dans tout groupe, qui va lever la main pour dire qu'il est d'accord avec rien, celui ou celle, enfin celui pour le coup qui ne dira rien mais qui à la fin dira lui aussi qu'il n'est pas d'accord, enfin tout ce qu'on connaît d'un fonctionnement d'un groupe. Donc j'ai laissé parler cette imagination-là, et j'étais évidemment pas témoin. Mais cette journée, elle a eu lieu, je le sais. Les hommes se sont réunis, à un moment donné, ils se sont tous levés les uns après les autres pour aller signer ce texte que j'avais sous les yeux, écrit de cette belle écriture, mais suivi derrière de toutes ces signatures très, très enfantines pour la plupart, parce que l'écriture était une richesse faiblement partagée à l'époque. C'était vraiment les débuts d'une école républicaine très volontariste. Et donc je savais que c'était venu signer ce texte. Donc je savais que cette scène, cette journée, elle avait existé. Après, j'ai laissé parler l'imagination.
Ce que vous faites aussi, c'est que vous employez parfois le conditionnel.
Oui.
Hein, pour montrer que justement, rien n'est sûr. Alors donc, dans ces passages-là, on quitte le style journalistique pour rentrer justement dans votre émotion. Vous parlez beaucoup de votre émotion. Hein. Vous vous laissez aller à votre émotion quand vous parlez surtout de la montagne. Hein. Il y a des passages, bien sûr. La montagne, c'est l'antidote de la vie parisienne, la montagne?
Ouais, c'est l'antidote de pas mal de choses, moi je trouve, mais pas que de la vie parisienne. Sinon, ça serait assez limitant.
Simone?
C'est un lieu de rêverie pour moi, la montagne. Voilà, c'est vrai que j'ai souvent raconté que quand j'arrive en montagne, j'ai envie de courir. Il se passe quelque chose qui doit être en lien avec l'enfance. Et donc, il y a, oui, dans la montagne, il y a une force qui est absolument géniale.
Alors, pour montrer les mots que vous employez pour parler justement de la montagne, on a choisi le passage sur le silence de la neige.
Mes silences préférés sont ceux de la neige quand elle vole. Lorsqu'on observe des flocons au microscope, ils apparaissent tels des fractales des montagnes, mathématiques glacées, sérieuses et pondérées, équilibrées, cristallines, légères, miraculeuses. Les fractales qui voltigent dans un balai extraordinaire, porté par l'air qui tourbillonne, livrent un combat involontaire contre les ondes sonores. Et elles l'emportent, absorbant les sons, dispersant les bruits à coups de millions de flocons perturbateurs. La neige, ce silence qui tombe, qui atténue, qui adoucit. La neige froide et fraîche reste accroché sur des pentes verticales. Les six branches des étoiles ressemblent à des hartons, et en s'accrochant les unes aux autres, elles blanchissent les falaises, débordent même au-dessus du vide, construisant des corniches, des voûtes, des ponts. Mais la perfection de ces étoiles est un état temporaire. Le silence masque aussi une violence absolue. Dans l'air, les flocons volent dans un tohu-bohu invraisemblable, entrent en collision et c'est un massacre de fractales. Les branches des étoiles s'arrachent, s'écrasent, se tordent, s'entremêlent. Le silence. Le jour de l'enterrement de Félicie Marin, au-dessus de l'église, l'instituteur du village devait être là, face à la tombe ouverte, aux côtés des habitants, du maire, du jeune curé, du père et de la mère, écoutant les mots et les silences. Puis, le bruit des pelles qui creusent dans le tas de terre meuble à côté du trou. Le son sourd, insupportable, de la terre qui heurte le bois, le recouvre. Le son qui s'atténue avec la couche qui s'accumule sur le cercueil et ses dernières pelletées pour bien finir le travail, égaliser le sol, effacer au maximum la bosse qui dit la présence d'une enfant quelques pieds sous le sol.
Merci. Silence de la neige, donc, auquel vous associez le silence des obsèques de Félicie, et puis alors, ce qui est très poétique aussi, d'un coup les pelletées de terre qu'on envoie sur le cercueil et qui viennent casser ce silence. Moi je pense que vous alternez des moments de poésie, j'emploie le mot dessin, avec des faits bruts, et ça, je dirais que ça donne au livre, justement, quelque chose que n'ont pas les livres historiques d'un côté ou les romans de l'autre. Je sais qu'il y a des gens qui vous ont reproché de ne pas avoir fait soit un livre historique, soit un roman. Et on ne mélange pas les deux. Eh bien si, on mélange les deux, et je trouve que vous en sortez très bien. Et moi, je pense, juste deux secondes, et moi, tout ça nous laisse imaginer que vous n'allez pas vous arrêter là. Est-ce que je me trompe?
Je réponds à la première ou la deuxième?
Les deux.
En fait, je ne me suis jamais posé la question du statut de ce livre. Effectivement, c'est pour moi une question qui n'est pas très intéressante, enfin, qui n'est pas très intéressante pour moi. Elle l'est sans doute pour plein de gens, et je le respecte vraiment, parce que voilà, c'est des questionnements qui ont leur propre valeur. Mais moi, je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était de l'ordre du roman, de la littérature, de l'essai, du récit. De fait, il sort en littérature, voilà, puisque dans les librairies, c'est organisé, rangé. C'est pas du tout un livre de littérature dans le sens où la quasi-totalité de ce qui est écrit s'appuie sur du réel, donc c'est de la fiction du réel, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que le statut m'était assez indifférent en réalité, que j'aime beaucoup jouer avec les mots par ailleurs, et c'est vrai qu'il y a des passages, par exemple, où je me suis permis de m'adresser au lecteur directement, par exemple, et à un moment donné de conseiller au lecteur, tout en lui disant c'est peut-être un peu délicat si tu es à côté de ton compagnon ou de ta compagne, mais de lire cette prière à voix haute, voilà, en disant je rigolais intérieurement à l'idée que peut-être un lecteur allait appliquer cette consigne et à un moment donné se mettre à lire à voix haute une prière du curé Vincent qui réclame l'aide du Seigneur pour que les semences trouvent leur destin. Et donc j'aime bien ce jeu-là, j'avoue que et j'aime bien envoyer ce gros clin d'œil aux historiens en leur disant je ne suis pas historien, effectivement, faire la même chose à des gens qui seraient que sur le roman, en disant voilà, moi je ne cherche pas à avoir une définition sur ce livre. Je crois que le meilleur mot, c'est peut-être l'idée d'un récit, je raconte une histoire. Voilà, et si pour moi raconter une histoire, et ben c'est ce qui m'amusait le plus, ce qui m'intéressait le plus. Et l'idée que cette histoire puisse se raconter, se transmettre, puisse vivre, c'était le plus important. Du coup, j'ai oublié la deuxième question.
La deuxième question, oh, c'était...
Ou alors c'était une façon rapide d'éviter la deuxième
question. C'était...
Non, non, c'était pour savoir s'il y avait
oui.
une suite.
Ah oui, oui,
voilà, donc, j'ai oublié la deuxième question. Non, j'ai évidemment très envie d'écrire d'autres livres. J'ai commencé à écrire des textes, à réfléchir. Mais comme vous l'avez compris, je suis assez lent dans l'écriture. Donc, ce que Chaudin, je l'avais commencé en 2014. Donc, je n'ai aucune. J'ai l'avantage d'avoir un métier. Donc, j'ai aucune pression liée au fait de devoir écrire. Et donc, je me laisse cette liberté d'écrire et d'écrire dans des domaines sans avoir non plus la capacité de répondre. Est-ce que je serai plus dans la fiction? Est-ce que je serai plus dans l'essai? Ben, je ne sais pas.
Alors justement, quand on vous lit, on ne peut pas s'empêcher de se dire quand même qu'il y avait là matière à un roman. Il y a même des passages qui ne feraient pas tâche, je trouve, dans un roman. Moi, j'aime beaucoup celui sur le fusil le faucheux, le bien nommé. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas franchi le pas? Si vous n'avez pas osé, parce qu'il y a en tout journaliste de presse écrite, il y a un écrivain fantasmé.
Oui, plusieurs réponses. J'ai hésité très longtemps. Et en fait, j'ai tranché entre le roman et donc ce machin, je ne sais pas comment, ce récit, ce livre, au bout d'un certain temps. Parce que j'ai voulu laisser ouvert les deux. Il y a des passages que j'ai écrits qui, dans mon esprit, pouvaient correspondre à un roman. Et par exemple, quand je parle de l'inspecteur des eaux et forêts qui s'appelle Léon Bicard, j'aime beaucoup ce nom, je trouve qu'il voilà, il saute Troisième République. L'inspecteur général des eaux et forêts, à l'époque, c'est presque aussi puissant qu'un préfet. C'est quelqu'un qui a voilà, une importance majeure dans la société. Et c'est vrai que quand j'ai décrit son bureau, là, pour le coup, j'étais complètement dans la fiction. Parce que je me mets à décrire le bureau de Léon Bicard. J'ai pas la moindre idée de à quoi ressemblait son bureau. Ce que je sais, c'est son statut social. Et donc, à travers la description, là, j'étais clairement du côté d'une forme de fiction et du plaisir de la fiction. Voilà. Après, quand on est journaliste, on écrit plus facilement des livres que d'autres professions. C'est assez injuste, mais c'est comme ça. Et du coup, il y a un risque majeur, c'est d'écrire une mauvaise fiction et d'être publié avec un mauvais roman. Voilà. Et pour le coup, pour moi...
Directeur du Monde.
Et en fait, en plus, quand on est directeur de la rédaction du Monde. Donc pour moi, il y avait un risque que je ne voulais pas prendre, qui était de faire un mauvais roman. Voilà. Et ce risque, il est plus grand. Parce que entre l'écriture d'un essai, d'un récit et d'un roman, il y a un pas supplémentaire à franchir, je pense, dans l'écriture, dans l'imaginaire, dans ce travail un peu particulier, et que je voulais pas prendre le risque, je voulais réduire le risque d'être publié parce que j'aurais été publié probablement en faisant un roman dont les gens auraient rigolé dans un coin en disant c'est vraiment raté. Ce risque que je voulais éviter là, je m'interdis vraiment pas un jour d'écrire des romans, mais le jour où je serai prêt.
Bon, il y a le temps qui passe, on me fait signe qu'il faut se dépêcher. Donc il y a des questions que je ne vous poserai pas une prochaine fois, sans doute.
Hein,
on prend rendez-vous. Simplement, à la fin, bien sûr, il n'est plus question de mort, mais de vie, puisque est-ce qu'il y a une sorte de morale à la fin, de leçon peut-être sans... Est-ce qu'il y a à la fin du livre une sorte de morale, mais je pense que vous n'aimez pas trop ce mot, plutôt une leçon. Est-ce que la montagne a pu ressusciter parce que l'homme n'y est plus?
J'ai su que je terminerai ce livre quand j'ai écrit l'épilogue. Je vous dis les choses, j'ai écrit l'épilogue avant d'avoir terminé le livre, parce qu'à un moment donné, en faisant des recherches assez pointues sur l'aspect botanique dans cette vallée, je suis tombé sur cette orchidée, l'orchidée fantôme, décrite dans des travaux de chercheurs. Et l'épilogue est venu assez naturellement. J'avais accumulé beaucoup de choses sur la biodiversité, sur la situation de cette vallée qui est aujourd'hui assez exceptionnelle. Et donc j'ai écrit l'épilogue. Et quand j'ai écrit l'épilogue, j'ai su que je terminerais le livre. Parce que jusque-là, je n'étais pas certain d'y arriver. Voilà, je me heurtais à plein de difficultés dans la construction, dans le récit, dans la difficulté à trouver des personnages, puisque je voulais que cette histoire soit incarnée par des hommes et des femmes. Et donc quand l'épilogue est venu, pour moi, c'était une forme d'évidence que j'avais trouvé mon livre. Encore une fois, c'est très subjectif. Hein. J'avais trouvé mon livre parce que cette histoire, elle prenait tout son sens avec l'épilogue. Elle prenait tout son sens parce que l'homme a blessé cette vallée, les hommes et les femmes ont abîmé la vallée où ils ont vécu, Ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix, et en aucun cas, moi, je voulais avoir un regard moraliste là-dessus. D'autres hommes sont venus, d'autres hommes, d'autres femmes sont venus pour planter des millions d'arbres. C'était le travail des eaux et forêts. En parenthèse, à l'époque, c'est assez fascinant. On était capable d'avoir une vision de très long terme. Là où aujourd'hui, je pense que vous connaissez les mésaventures de l'ONF. Là, je m'aventure sur un terrain plus politique, mais on est sur du court terme, y compris sur ce genre de choses. En tout cas, à l'époque, il y a eu ce travail prodigieux de réparation. Une montagne blessée qui a été réparée avec des millions d'arbres. Et c'est devenu progressivement une forme de sanctuaire, puisque l'exploitation forestière s'est éteinte. Je crois que les dernières exploitations doivent remonter dans la partie du bois du chapitre, qui est la plus protégée, aux années 1950. Et donc, voilà, l'homme a détruit, l'homme a en partie réparé, et l'homme ayant disparu, c'est devenu, pour moi, là encore, je suis dans la subjectivité la plus absolue, quand je relisais le début du livre à votre demande et que j'écris un des plus beaux paysages d'Europe de l'Ouest, il n'y a pas plus subjectif que cette phrase-là, hein, mais en même temps elle est incontestable puisque vous êtes par nature, c'est difficile d'avoir des arguments pour dire l'inverse. Mais donc, oui, de fait, il y a une forme de leçon, d'enseignement. Effectivement, j'aime pas trop le mot moral parce qu'il peut être utilisé de façon tellement différente. La nature peut reprendre ses droits. Mais c'est une morale ou une leçon partielle, puisque la nature reprend de façon magnifique ses droits dans cette vallée, parce que l'homme a disparu. Et que ce qui est applicable à Chaudun n'est de fait pas applicable dans la plupart des autres vallées, puisque, et les autres territoires au-delà de la montagne, puisque l'homme et la femme sont toujours là. Et l'humanité, on l'espère, va durer. Mais voilà, je trouve que cette histoire très ancienne, très microscopique, qui n'est que l'histoire d'un village parmi d'autres villages, et la critique ou la remarque, elle est tout à fait légitime, elle a cette force que je trouvais assez prodigieuse de nous raconter une forme d'avenir aussi, et de nous dire ce que peut être une terre sans l'humanité. Voilà, une terre sans l'humanité, elle peut vivre très très bien par ailleurs, une fois que l'homme arrête de faire le désastre qu'il fait jour après jour sur la planète. Et je trouvais que ce message-là, à travers l'histoire d'un petit village disparu, était une belle histoire.
Et oui, et c'est une perspective possible donc pour notre avenir. Dernière question, Nicolas.
Une dernière question nettement plus terre à terre. Donc cette histoire nous semble très lointaine parce que notre vie aujourd'hui est très différente de celle qu'ont connue les habitants de Chaudun à l'époque. Malgré tout, elle n'est pas si lointaine dans le temps. Et certains épisodes, certaines querelles peuvent être mal perçues aujourd'hui. Je pense à ce Louis Aurouze qu'on ne voulait pas voir exempté. On a bien connu ici à Gap un Louis Aurouze qui faisait aussi dans le cinéma. Vous avez certainement rencontré des descendants des habitants de Chaudun. Il y en a peut-être d'ailleurs ici ce soir, je ne sais pas. Comment est-ce qu'ils ont réagi à votre livre ?
Alors, ceux que j'ai pu rencontrer, j'ai plutôt eu des retours positifs, hein, en disant, voilà, avec la satisfaction de voir cette histoire portée devant le plus grand nombre. Après, j'avais fait un choix méthodologique important. J'avais fait le choix de ne m'appuyer en rien sur des archives
aller voir les descendants.
Voilà, ne pas aller voir les descendants. C'est-à-dire que je ne voulais pas m'enfermer, et là, c'est un choix personnel, professionnel, méthodologique, si je peux employer ce mot-là, dans le récit transmis de génération en génération, parce qu'on sait que les récits transmis de génération en génération disent parfois le vrai, disent parfois des choses qui sont un peu différentes. L'exemple dont je parlais tout à l'heure, cette jeune sœur qui épouse le mari de sa sœur décédée, pardon, c'est encore compliqué, qui donne un enfant très très vite derrière, je suis à peu près certain que cette histoire, elle n'a jamais été racontée comme ça, et c'est assez logique dans le cadre familial, parce que ça fait partie de la vie, tout simplement, et des petits accommodements avec la vie. En revanche, c'est écrit noir sur blanc dans l'état civil. Pour qui c'est lié à l'état civil ? Et donc, paradoxalement, les documents d'archives publiques disent parfois beaucoup plus de la vie réelle des gens que ce que pourrait dire un document familial ou la mémoire de cette famille-là. Et encore une fois, c'est une histoire parmi beaucoup d'autres d'une forme de pragmatisme, une forme d'organisation sociale pour que les hommes et les femmes ne restent pas seuls. Et donc, en travaillant exclusivement sur des archives publiques, je me donnais cette liberté de raconter le village sans prendre le risque de trahir ce que des descendants auraient pu me donner, et en disant par ailleurs que en ayant fait assez vite le constat, pour être parfaitement honnête, que les traces sont très rares et que donc l'hypothèse de trouver des documents pertinents, au-delà des photos ou de quelques documents officiels, sur la vie réelle des habitants, il y a 120 ans, dans ce petit village, c'était de fait très tenu comme matériau d'archives. Mais voilà, en tout cas, j'avais fait ce choix-là pour me donner toute liberté, toute latitude d'écriture, pour ne pas mettre en difficulté des gens qui m'auraient confié les documents. Voilà, pour que derrière, je puisse écrire l'histoire telle que je la percevais. C'est, encore une fois, subjectif, c'est mon regard sur l'histoire de ce village et de ses habitants.
Eh bien, on va s'arrêter là. Le temps nous force à nous arrêter. C'est dommage parce qu'on aurait encore beaucoup de questions. Donc, merci, Luc. Vous avez donc à votre disposition Ken de la Loupiote qui peut vous vendre des livres si vous ne l'avez pas encore lu. Mais je pense que peut-être qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu déjà, le livre.
Ah oui. Dénoncez-vous, là.
Et voilà, et puis il y a le verre de l'amitié aussi, que vous nous ferez le plaisir de prendre avec nous. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être là.